RMC Motors, Jean Lecroy.
Et bonjour à tous ou rebonjour à tous si vous étiez déjà avec nous dans les grandes gueules il y a quelques minutes pour parler évidemment de cet affrontement entre Vettel et Hamilton, je le disais il y a un instant, qui va atteindre son paroxysme sur la piste de Spielberg pour le Grand Prix d'Autriche. On a plein d'infos et plein de sons à vous faire écouter en compagnie de Louis Amard, bien sûr. Salut Louis.
Salut Jean-Luc, bonjour à tous.
Et puis en compagnie d'Adrien Tambay, naturellement, qui est avec moi également depuis quelques minutes. Tout va bien, Adrien ?
Rebonjour Jean-Luc, salut à tous, salut Louis.
Salut,
tout va bien. Allez, on va commencer par le sportif. J'espère que vous étiez avec nous et vous le savez, vous ne raterez rien également du Tour de France, cette 9e étape qui s'annonce effectivement très disputée avec, j'ai bien écouté, le col de la biche. Alors Louis, tu vas nous confirmer ça, mais des biches et des chevreuils, malheureusement, il y en a un petit peu du côté de Spielberg et de Zellweg. Moi, j'en ai vu traverser lors des séances d'essais libres dans le passé. Tu en as vu cette année ?
Des biches, des chevreuils et des cols aussi, Jean-Luc, parce que cette 9e manche du championnat du monde de Formule 1 est une étape de montagne nichée dans les vallées de Styrie, ici à Spielberg, effectivement, sur ce tracé magnifique au cœur des montagnes, des collines, des pins, des sapins et peut-être aussi des orages, parce que pour l'instant il fait encore à peu près beau, mais le grand soleil qui régnait ce matin a laissé place à de gros nuages gris menaçants et il n'est pas impossible que des averses viennent perturber la bonne tenue de ce Grand Prix d'Autriche.
Ah ben voilà un facteur supplémentaire qui pourrait nous le rendre absolument spectaculaire, même si, et la dernière question, le public vient en masse, hein, c'est vraiment Red Bull Land, c'est comme ça qu'on peut l'appeler également, Louis, puisque ce circuit a été racheté par Dietrich Mateschitz, c'est par sa société de boissons énergétiques, qui est évidemment aussi patron de l'équipe Red Bull, Toro Rosso, enfin bref, on est vraiment chez lui, là, c'est son royaume, c'est son domaine.
Red Bull Land, mais plus encore Max Verstappen Land. Ils sont 160 000 aujourd'hui sur le tracé de Spielberg et énormément de Hollandais. Il y a une tribune qui est entièrement orange. On se croirait dans un stade de foot à Amsterdam un soir de match des Pays-Bas. Il y a également à l'entrée du circuit des hordes de tentes de seconde qui sont toutes oranges et qui abritent toutes des supporters néerlandais qui ont fait les plus de 1000 km qui les séparent de leur pays pour venir soutenir Max Verstappen. Et donc ça met évidemment une ambiance particulière, très festive, parce que j'ai pas besoin de faire un dessin dès les premières heures du matin, ça ne carbure pas vraiment au café.
Oui, je vois ce que tu veux dire. D'habitude, ce sont des tribunes rouges, il doit y en avoir aussi quand même, hein, comme il y en a partout. Alors Adrien, on en vient au sportif, parce qu'on a Louis a très bien travaillé, comme d'habitude, on a beaucoup de sons à vous faire écouter. Adrien, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que c'est important, tu le connais bien, Valtteri Bottas, lui, quel que soit le duel qui oppose ses adversaires pour le championnat, il signe une deuxième pole. Est-ce que la deuxième victoire est au bout ? C'est ce que tu pensais il y a quelques minutes.
Je ne sais pas, mais c'est effectivement mon pronostic, parce que Valtteri Bottas a toujours été rapide sur ce circuit. Il l'avait été avec Williams. Il a une voiture qui est plus facile à conduire que sur les tracés précédents, apparemment, en tout cas. Même s'il a bénéficié hier de circonstances un peu spéciales en qualification, avec à la fin une interruption plus tôt que prévu, il a quand même fait ce tour et il a quand même devancé Sébastien Vettel, certes de très peu, mais en tout cas ça va être une belle bataille. Le deuxième homme, ça sera Sébastien Vettel. Le premier virage sera très important. On sait qu'il est un peu compliqué, ce premier virage, et que il y a une saucisse ou une baguette, on les appelle comme ça, à la sortie oui. Un peu dangereuse, où on peut endommager la voiture, donc très important. Ensuite il y a une longue ligne droite, ça va être très important de bien procéder dans ce premier virage.
Et puis ce départ, il est légèrement en côte, hein, c'est même très important. 330 mètres à effectuer avant le virage à droite. Depuis la position sur la grille de départ, Valtteri Bottas avait signé la pole à Bahreïn, donc on s'en souvient. Et puis il s'était imposé. On l'écoute au micro de Louis Amard parler de sa performance et de ce départ.
J'espère réussir un bon départ et être en mesure de ne regarder que devant, pas derrière. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer la force des Ferrari, leur rythme est bon en course depuis le début de saison. Personnellement, il faut que je mette tout en œuvre pour gagner et du point de vue de l'équipe, tout faire pour permettre à Lewis de revenir le plus haut possible. Contrairement aux hommes de tête, il partira en super soft, donc il pourra jouer sur la stratégie pour remonter. Mais pour nous, avec les ultra soft, on ne devrait s'arrêter qu'une fois, il n'y a pas grand-chose à tenter.
Alors effectivement, il faudra bien tenir la baraque, hein, Louis, du côté de Valtteri Bottas, qui est un homme qui a des nerfs, même si son palmarès pour le moment est relativement limité, nous l'avons dit, sa première victoire c'était il n'y a pas si longtemps, sa première pole aussi, il sait que justement peut-être il peut jouer sur l'affrontement direct entre ses deux principaux adversaires.
Exactement, et d'ailleurs, hier, Sébastien Vettel lui a rendu un hommage presque perfide en disant « Valtteri est un bon pilote, mais surtout un pilote mature ». Ça faisait évidemment écho à ce qu'il pense de l'équipier de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton. Et c'est vrai que Bottas, il a un vrai coup double à jouer. D'abord parce qu'en réussissant à décrocher cette pole position, il se met évidemment dans une bonne posture pour passer devant Sébastien Vettel et le contenir plutôt Sébastien Vettel, et pourquoi pas se rapprocher des deux hommes de tête au classement général du championnat du monde. Et puis surtout, il va avoir un rôle, ça va être de protéger la remontée de Lewis Hamilton. Là, on va jouer à la fois pour lui-même et pour l'équipe, parce qu'Hamilton est relégué dans les profondeurs de la grille après la pénalité de 5 places qu'il l'a frappé. Et évidemment, Bottas non seulement va jouer pour lui-même, mais aussi pour tenter de préserver les chances d'Hamilton dans sa lutte pour le titre de champion du monde.
Alors, je vous rappelle, avant d'écouter justement Vettel au micro de Louis Hamar, je vous rappelle les positions au championnat. C'est Vettel qui partira donc sur la première ligne de la grille de départ aux côtés de Bottas avec sa Ferrari, qui totalise pour le moment 153 points. Il devance Lewis Hamilton qui partira, on va y revenir évidemment beaucoup, seulement 8e à la suite de la pénalité qu'il a frappée pour changement de boîte de vitesse, 139 points. Et Valtteri Bottas, le poleman du jour, 111, donc il n'est pas exclu du jeu. On écoute Vettel, comme l'évoquait OK Louis, il y a un instant, féliciter tout d'abord le poleman Valtteri Bottas.
Bravo à Valtteri, il a été rapide tout le week-end, ce n'est pas une surprise de le retrouver devant. L'écart était faible, donc sur ma deuxième tentative, j'espérais évidemment le devancer, mais les drapeaux jaunes m'en ont empêché. Dans l'ensemble, je suis assez content, la voiture s'est bien comportée. On sait qu'en qualif, Mercedes est très fort, mais nous sommes tout prêts, donc je suis content. Quant à la course, peu importe d'où part Hamilton, je ne dois me concentrer que sur moi, comme depuis le début de la saison, et ça m'a pas trop mal réussi jusqu'à maintenant, mais évidemment, l'objectif, c'est de gagner.
Bon, Adrien, en tant que pilote, toi, évidemment, c'est la bonne méthode. Hein. Quelle que soit la position de son adversaire, l'objectif avant tout de Vettel, c'est de le remporter, ce Grand Prix.
Mais exactement, Jean-Luc, l'objectif, c'est de dépasser Valtteri Bottas le plus rapidement possible sur la piste, et sinon dans les stands avec une bonne stratégie. C'est assez clair pour le pilote allemand, on va pas lui faire. En plus de ça, on a quelques interrogations, hein, sur la stratégie ce week-end, et notamment sur les pneumatiques à utiliser, des pneumatiques soft. Vous savez qu'on a les ultra soft, les super soft et les soft ce week-end. Les pneumatiques soft ont été utilisées très peu seulement, mais apparemment il y a une interrogation, peut-être que cela serait presque aussi performant que les super soft, donc et plus constant sur la durée du Grand Prix, donc peut-être un pari à effectuer, notamment pour Lewis Hamilton.
Oui, Lewis Hamilton, dont on dit qu'il aurait une stratégie différente. A priori, on est parti pour un arrêt, on vous l'a dit et redit depuis le début du week-end, parce que c'est assez simple et le circuit est assez doux ici pour les pneus, mais peut-être Hamilton se risquera-t-il sur deux. Alors, on va l'écouter justement, Lewis Hamilton. Il était à 173 millième exactement en qualification de son équipier Valtteri Bottas, 3e logiquement sur la grille, mais 8e dans les faits. On va écouter Lewis Hamilton au micro de Louis Hamar parler de sa performance.
Je ne suis pas en colère, je suis juste déçu de ma performance, rien de plus. Parce que ça va être extrêmement difficile d'aller chercher beaucoup de points. Je vais partir d'assez loin, mais c'est comme ça, je suis pénalisé, je n'y peux rien. Quoi qu'il arrive en course, il faudra attaquer au maximum. Mon but est de revenir vite dans le top 5 et d'engranger le plus de points possible.
Eh oui, c'est extrêmement simple. L'objectif, c'est déjà d'essayer de monter sur le podium. Et pourquoi pas mieux, surtout, Louis, si tu l'as dit, si la pluie, la météo vient brouiller les cartes. Alors là, ce serait la grosse surprise. Quelles sont les probabilités ou les chances de pluie, selon le côté sur lequel on se place?
Alors, pour l'instant, nous n'avons pas cette information. Normalement, d'accord, on nous la donne une heure avant le début de la course. Ouais. Et pour l'instant, la FIA ne nous l'a pas communiqué, ce qui veut dire que les météorologues de la FIA sont en train d'étudier ça avec plus de précision et d'acuité que d'habitude. Et c'est sans doute plus difficile à prévoir parce que le temps ici en montagne est extrêmement changeant. Pour ce qui est de Lewis Hamilton, en fait, il a appris jeudi sa pénalité. Il n'a été finalement officialisé que vendredi soir, tard. Et évidemment, personne n'a pu interroger ni Toto Wolff, le patron de Mercedes, ni même Lewis Hamilton avant la séance de qualification à ce sujet. Mais voilà l'un des grands enjeux de cette bataille que se livrent Hamilton et Vettel pour le titre de champion du monde, la fiabilité, parce que c'est la fiabilité qui a fait défaut pour la boîte de vitesse de Lewis Hamilton. Par parenthèse d'ailleurs, cet incident n'est pas dû à l'accrochage avec Vettel lors, oui, du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Mercedes s'est tout de suite précipité pour le souligner. Et puis quant à Sébastien Vettel, lui, il va bientôt avoir un problème avec son turbo qui commence à accuser un petit peu le coup, qu'il va falloir changer, et le cas échéant il serait pénalisé également. Donc peut-être que c'est aussi sur la fiabilité que va se jouer la bataille pour le titre.
Et ça pourrait tout à fait, Adrien, on en parle depuis le début de la saison et même depuis les saisons précédentes, hein, ces pénalités qui viennent frapper les pilotes au plan sportif alors que c'est de fiabilité et d'équipe dont il est question, c'est pas un peu injuste quand même, et surtout ça vient brouiller les cartes et ça vient perturber le combat sportif.
C'est une question compliquée, Jean-Luc, effectivement ce sont des choses qui ne sont pas directement du ressort du pilote, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce sport, même si c'est un sport très individualiste. Au final, il faut faire un travail d'équipe. Et si l'équipe pêche sur la fiabilité des composants de la voiture, et ben forcément le pilote en paye les frais. Maintenant, est-ce qu'il faut revoir cette façon de pénaliser les pénalités? Il faut qu'il y en ait dans tous les cas, parce qu'on sait que ce règlement a été fait pour limiter les coûts et que ceux-ci s'envolent. Donc il est là pour quelque chose. Maintenant, la façon de faire, je ne sais pas. En tous les cas, c'est sûr qu'à la fin, le championnat se jouera sur plein de petits détails. Et ceux-là en font partie.
Allez, la question est ouverte. En tout cas, on va ouvrir un autre tiroir. Celui-là, on l'a beaucoup abordé depuis le dernier Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est évidemment la rivalité et les suites de l'incident entre Vettel et Hamilton. Alors, je vous propose, puisque Louis a rencontré les différents protagonistes, là aussi, on va commencer tout d'abord par les excuses de Vettel auprès d'Hamilton. En tout cas, c'est ainsi qu'il le présente. Écoutez-le au micro de Louis Amar.
J'ai dit ce qu'il fallait dire. J'ai fait une erreur, j'étais dans le feu de l'action et j'ai surréagi. Donc j'ai appelé Lewis le lundi d'après le Grand Prix et on a discuté. Puis je suis venu cette semaine m'expliquer devant la FIA et maintenant il faut qu'on avance et qu'on se concentre sur la course.
Allez, tout de suite dans la foulée, je vous propose d'écouter ce qu'Hamilton, lui, a pensé de l'appel de Sébastien Vettel. Vous allez voir que selon qu'on est du côté de celui qui est censé prononcer ses excuses et celui qui les reçoit, eh bien le sentiment est un petit peu différent. C'est toujours au micro de Louis Amar.
Sébastien m'a appelé le lundi, mais ce jour-là, il ne s'est pas excusé. Il était dans le même état d'esprit qu'après le Grand Prix. Mais le lendemain, il a sans doute réalisé qu'il avait fait une erreur, et là, il m'a présenté des excuses que j'ai acceptées. Je lui ai simplement dit que certaines personnes avaient peut-être eu l'impression que moi, je m'étais mal comporté pendant la course en donnant un coup de frein, et que j'attendais donc de lui qu'il explique que c'était le fautif. Je n'ai pas l'impression que ce point ait encore été clarifié. J'espère qu'il le fera bientôt.
Alors Adrien, là on est vraiment dans le psychologique, hein, voire dans le psychiatrique. Il ne s'est pas vraiment excusé. Et puis surtout ce que Hamilton insiste sur ce point, c'est qu'il voudrait que Vettel reconnaisse qu'il ne l'a pas testé, qu'il n'a pas freiné. Alors il n'a pas freiné, ça c'est sûr, mais on se déboutonne. Ton explication Adrien, quand même, il l'a un petit peu provoqué.
En fait, Lewis Hamilton est toujours à la limite du règlement dans ses relances, mais je pense qu'il le sont un peu tous. Peut-être que Lewis Hamilton le fait très bien et au point d'en énerver en fait Sébastien Vettel. Et Sébastien Vettel est quelqu'un qui, c'est un très grand champion qui est là et qui est plusieurs fois champion du monde pour des raisons, mais il a la tête dure. Et à mon avis, au fond de lui, il sait que Lewis Hamilton a ralenti et lui fait à l'envers à chaque fois qu'il fait une relance. Et c'est pour ça que, à mon avis, il n'avait pas vraiment envie de s'excuser jusqu'au moment où il a compris que par rapport à tout le monde, il a besoin de s'excuser pour pas se faire pénaliser plus que ce qu'ils ont fait pendant la course. Ça aurait été une grosse faute pour lui d'être têtu à ce point-là. Voilà.
Oui, Louis, c'est le sentiment que tu as également, hein, c'est que Vettel a été contraint de s'excuser publiquement. En tout cas, c'est ce qu'il a dû faire devant la FIA le lundi, le jour de son anniversaire d'ailleurs.
Oui, exactement. Sacré cadeau pour Sébastien Vettel que de devoir se présenter devant ce que la FIA appelle son tribunal international. 36 juges indépendants devant lesquels l'Allemand quadruple champion du monde a donc de nouveau fait amende honorable. Il n'a finalement pas été sanctionné. Juste une toute petite parenthèse, il faut que Sébastien Vettel fasse très attention aujourd'hui lors de ce Grand Prix d'Autriche parce que sur son permis à points, il ne lui en reste plus que deux. Alors il en récupérera deux de plus dans la semaine prochaine au Grand Prix d'Angleterre. Mais s'il venait à commettre un impair ce week-end et qu'il était sanctionné, il serait purement et simplement suspendu d'un Grand Prix, ce qui évidemment dans sa lutte pour le titre de champion du monde serait extrêmement pénalisant. Pour revenir sur l'histoire entre Vettel et Hamilton, il y a eu un grand moment de cirque, de comédie, qui était jeudi en conférence de presse. Ces deux-là y étaient invités. Kevin Magnussen, le malheureux, était au milieu de la joute. C'est lui qui voyait siffler les balles et qui comptait les points. Oui. D'ailleurs, il a à aucun moment été interrogé, le malheureux Kevin Magnussen, sinon pour lui demander justement ce qu'il pensait de cet accrochage. Il aurait pu prendre son après-midi. Mais Effectivement, on attendait notamment de la part des journalistes anglais un feu nourri de questions, on attendait des pics, des polémiques, des phrases savoureuses, quelques flèches, et en fait il n'en a rien été. Vous avez entendu les discours très polissés de l'un et de l'autre, Lewis Hamilton soulignant simplement qu'il aimerait que Vettel lave un petit peu plus son honneur. Toujours est-il que donc tout cela s'est passé dans un cadre assez feutré, à l'image de ce qu'est devenu la Formule 1, on peut ou pas le regretter, mais en tout cas c'est aujourd'hui assez polissé, en tout cas dans les discours. Et puis une dernière chose, hier vous avez peut-être vu l'image à l'issue de la séance de qualification de Lewis Hamilton et de Sébastien Vettel refusant de se serrer la main. Alors là tout de suite évidemment l'incendie était reparti, sauf qu'ils s'étaient serré la main quelques instants avant, que l'image n'avait pas été captée en direct par les caméras, donc tout le monde a vu qu'ils avaient refusé de se serrer la main, ça a fait un pataquès pas possible, et puis la FIA très vite a publié sur les réseaux sociaux l'image de la poignée de main. Simplement Vettel et Hamilton, qui venaient déjà de s'exécuter, n'avaient pas envie de le refaire simplement pour faire la claque.
Allez, c'est du jeu, hein. Tout ça effectivement c'est du jeu organisé, on se demande si le scénario est écrit par quelqu'un, on va dire que non. On va marquer une petite pause, on est dans Motors et on est maintenant à moins de 40 minutes du départ de ce Grand Prix d'Autriche et à moins de 10 minutes de l'ouverture de la voie des stands. Vous êtes sur RMC, la radio de la Formule 1, vous êtes dans Motors et vous restez avec nous.
RMC Motors, Jean Lecroix.
Allez, on est de retour dans Motors avec Motorsport TV et on va continuer évidemment. On a encore deux sons à vous faire écouter qui ont été réalisés par Louis, bien sûr. On va d'abord écouter l'opinion de Sébastien Vettel sur Lewis Hamilton, toujours évidemment après cette polémique qui fait flamme, qui embrase le paddock de la Formule 1 depuis le dernier Grand Prix en Azerbaïdjan. Écoutez ce que dit Sébastien Vettel d'une manière générale sur son attitude par rapport à son adversaire Lewis Hamilton.
Vous savez, je pense qu'on essaye toujours de pousser l'autre dans ses retranchements. Et plus mon adversaire pousse, plus je dois répondre. C'est la course. On se bat pour être champion du monde. Et au bout du compte, ça fait de nous des meilleurs pilotes. Mais dans ces conditions, ce n'est pas facile de ne jamais déraper, de tout bien faire. Mais j'apprécie la relation que nous avons. Et c'était important pour moi de la préserver.
Adrien, ce sont des mots, ça, ou il le pense vraiment, Sébastien Vettel, préserver sa relation avec Lewis Hamilton?
Honnêtement,
oui,
je pense qu'ils s'en contrefichent de garder la relation avec Lewis Hamilton. Il a qu'une envie, c'est de le battre sur la piste, et je peux pas en me mettant à sa place deux secondes. Enfin, ça sera jamais son ami. Ils sont là et à se battre pour le même objectif tous les week-ends, et ça peut, ils peuvent se respecter certes, mais ça sera jamais son ami. Donc que la relation reste saine ou pas, je pense que pour lui ça change pas grand chose.
Oui, il a fait du politiquement correct. Exactement. Là, Sébastien Vettel. On va écouter la réaction d'Hamilton maintenant, puisque Louis a posé la même question, évidemment, à Lewis par rapport à Sébastien.
Ça n'affectera en rien ma façon de courir. Je continuerai d'attaquer au maximum. Je veux gagner ce championnat à la régulière. J'ai la voiture et les qualités pour. Donc je dois continuer à travailler dans ce sens. J'ai dit à Sébastien que je continuais à le respecter en tant que pilote. On cherche toujours les points faibles de ses rivaux. Et là, je crois que c'est clair. J'ai trouvé celui de Vettel. Donc je n'ai rien d'autre à faire pour lui mettre la pression que de continuer à conduire comme ça.
Allez, Louis, je crois qu'on va refermer pour le moment cette parenthèse de l'affrontement. Bon, c'est évident que ce sont deux très grands champions. On le rappelle, 4 titres de champion du monde d'un côté pour Sébastien Vettel, 3 titres pour Lewis Hamilton. L'enjeu est énorme, Louis, et puis on le répète une nouvelle fois, là c'est pas au sein d'une écurie, hein, ce sont bien deux équipes qui s'affrontent également.
Exactement, donc on peut lâcher les coups, et effectivement, alors que depuis le début de saison, la guerre entre ces deux-là était à fleur et mouchetée, presque en dentelle, parce qu'à chaque fois que l'un gagnait, l'autre le complimentait. Ça ne sera sans doute plus du tout le cas à compter de ce Grand Prix d'Autriche, et évidemment, à chaque fois qu'ils se retrouveront à la lutte pour remporter un Grand Prix, qu'ils seront proches l'un de l'autre, nous penserons à ce qui s'est passé en Azerbaïdjan.
Allez, je vous rappelle la grille de départ de ce Grand Prix d'Autriche emmené par Valtteri Bottas. Deuxième pole pour lui de sa carrière, deuxième pole de la saison pour Mercedes. Il aura à ses côtés Sébastien Vettel. Et juste derrière, non pas Lewis Hamilton, mais Kimi Raikkonen. On va en dire un mot quand même, Adrien, de Kimi Raikkonen. Il n'a pas démérité, même si 528 millièmes, c'est l'addition qu'il a fallu payer par rapport à Bottas. C'est beaucoup quand même.
Oui, c'est surtout beaucoup par rapport à son coéquipier, une fois de plus, presque 5 dixièmes sur un circuit où il y a seulement 9 virages et des virages rapides où il est très difficile de gagner du temps et de faire la différence, donc aussi très difficile d'en perdre par rapport à son coéquipier. Ça montre que Sébastien Vettel est au-dessus de son coéquipier, en tout cas depuis le début de la saison, et il est là quand même, Kimi Raikkonen. Il a la voiture pour faire troisième avec un Lewis Hamilton qui sera rétrogradé, c'est un peu décevant quand même de la part du pilote finlandais.
Ouais, c'est clair. Et puis on rappelle, Louis, que pour le moment, Raikkonen n'est que cinquième au classement général provisoire du championnat avec 73 points. Il a 2 podiums à son actif cette saison. C'est un peu léger. J'imagine que le paddock doit bruisser de rumeurs concernant ce deuxième baquet Ferrari, Louis.
Tu imagines bien, la silly season dans laquelle nous sommes plongés porte très très bien son nom en ce moment, parce qu'effectivement tout le monde glose sur le remplaçant de Kimi Raikkonen. Alors un jour on dit que ça sera Carlos Sainz, le lendemain Max Verstappen, le surlendemain Sergio Perez. Il n'en demeure pas moins que Sébastien Vettel aura son mot à dire et que Kimi Raikkonen est un coéquipier pour le moins arrangeant. Vous aurez noté que dans l'interview qu'il donne ce week-end à un grand quotidien sportif français, Sébastien Vettel dit qu'il n'a pas d'amis dans le paddock. Ça fait écho à ce qu'on disait il y a un instant sur Lewis Hamilton, sauf peut-être un, Kimi Raikkonen. Ça ressemble également à un appel du pied pour demander à ses patrons de le prolonger, parce que c'est quand même super, un équipier avec lequel on s'entend bien et combat quasiment chaque week-end.
C'est surtout confortable, effectivement, ça lui pose pas trop de problèmes. Alors, d'ailleurs, il va lui servir probablement dans ce Grand Prix, parce que je l'évoquais tout à l'heure, ce sera lui la barrière, le rempart contre la remontée potentielle de Lewis Hamilton. On continue avec cette grille de départ, puisque Bottas, Vettel, je le répète, la première ligne, la deuxième ligne emmenée par Raikkonen, et à ses côtés, un garçon qui a toujours la banane, il a raison, puisqu'il a remporté le dernier Grand Prix mouvementé d'Azerbaïdjan. Il s'agit de Daniel Ricciardo, et ça tombe bien, Louis Amar l'a rencontré pour lui parler de cette qualif. Quand même, en temps, il est à 645 millièmes de Valtteri Bottas. On l'écoute, Daniel Ricciardo.
C'était une qualif correcte. À la fin, on a tous été empêchés d'améliorer à cause des drapeaux jaunes. Je n'étais pas loin de Kimi, donc j'aurais pu prétendre à un peu mieux, mais en même temps, peut-être que lui aussi serait allé plus vite. Pas de regret, c'était sûrement la meilleure performance que je pouvais espérer aujourd'hui. Et quatrième, c'est une belle position de départ.
Si je résume, Louis, il est toujours content, Daniel Ricciardo. Il est...
Ben oui, il est toujours content, Daniel Ricciardo, c'est vrai. En tout cas, il donne le change, il sourit. Et alors, la seule fois où on l'a vu vraiment, vraiment furieux, c'était l'année dernière à Monaco, lorsqu'une erreur stratégique de son équipe l'avait privé de la victoire. Ça y est, la voie des stands est ouverte ici sur le circuit de Spielberg.
C'est la bonne nouvelle.
Sans doute derrière moi. Et c'est Max Verstappen, comme un symbole, qui s'en est extrait le premier, déclenchant une holla des multiples supporters néerlandais qui sont venus l'accueillir. Sachez qu'il y en a un qui prendra le départ depuis cette voie des stands. C'est Pascal Wehrlein, pénalisé pour avoir changé de turbo sous régime de parc fermé.
Alors, la transition est toute faite, Louis, puisqu'on allait parler maintenant de Max Verstappen. Une fois n'est pas coutume, j'allais dire, Adrien, dominé par son équipier Daniel Ricciardo dans l'exercice particulier des qualifications. 1.04.896, c'est le temps de Ricciardo. 1.04.983, c'est pas grand-chose. Mais quand même, pour Verstappen, qui a d'ailleurs fini dans le bac à gravier hier en Q3, Adrien.
Oui, un Max Verstappen qui, le pauvre, hein, a plein de déconvenues en ce début de saison. Au niveau du championnat, il a beaucoup moins de points que son coéquipier, alors qu'au niveau de la performance, il est là, il fait le boulot, et puis à chaque fois ça tourne mal, que ça soit d'un point de vue mécanique ou même au niveau aussi des contacts en course. Donc difficile pour Max Verstappen ce début de saison, et puis la silly season qui a commencé, comme tu en parlais, beaucoup de rumeurs à son sujet, et puis tout le monde aime discuter, donc ça doit pas être un moment facile pour Max Verstappen, même si encore une fois il fait le boulot, il est tout proche de son coéquipier et je pense qu'il va être capable de faire une bonne course aujourd'hui, en espérant que les problèmes mécaniques, notamment du bloc Renault, les laissent tranquilles.
Et pourtant, Max Verstappen, il est derrière son équipier, mais il a eu beaucoup de problèmes mécaniques, comme Adrien vient de le souligner, puisque Verstappen, il totalise seulement 45 points. Daniel Ricciardo, 92, l'écart est énorme, mais c'est vrai que Verstappen, lors des 6 derniers Grands Prix, il n'a terminé que 2 fois. On va l'écouter expliquer au micro de Louis Amar pourquoi il a terminé dans le bac à gravier en Q3 hier.
Out of turn 3, I got the yellow flag.
Après le virage 3, j'ai vu le drapeau jaune, donc je n'ai pas pu utiliser le DRS et j'ai perdu un peu plus de 2 dixièmes, mais je cherchais quand même à améliorer parce que j'avais réussi un bon premier secteur. J'ai gagné du temps au virage 6 en attaquant, mais au 7, j'ai poussé un peu trop fort, donc j'ai dérapé et j'ai perdu l'arrière de la voiture.
Bon, il a dérapé, lui, mais il a dérapé pas en parole. Hein. Lui, c'est vraiment sur la piste, là, ce coup-là.
Exactement. C'est un moment extrêmement important dans la carrière de Max Verstappen, parce que jusqu'à présent, sa trajectoire n'était que d'or. Il a commencé chez Toro Rosso, il a tout de suite été assez brillant. Il est monté chez Red Bull la saison dernière, après les mésaventures de Daniel Gviat, et il a remporté un premier Grand Prix de haute lutte à Barcelone, alors qu'il débarquait tout juste dans une nouvelle écurie. Il a signé de nombreux podiums également la saison dernière, et là, il marque le pas. Alors, évidemment, il y a des problèmes mécaniques qui l'accable depuis le début de saison, et notamment depuis ses dernières courses, mais il a quand même deux fois moins de points que Daniel Ricciardo, qui d'ailleurs laissait suggérer que c'était peut-être aussi le pilotage de Max Verstappen qui amenait ses problèmes mécaniques. Peut-être qu'il était trop à la limite de sa machine et que donc il l'amenait souvent à la faute. Et Dietrich Mateschitz et Helmut Marko, les patrons de Red Bull, de même d'ailleurs que Christian Horner, ont tenu à le rassurer en expliquant que c'était la première mauvaise passe de sa carrière, qu'il y en aurait peut-être d'autres. Il n'a pas encore 20 ans, Max Verstappen, il les aura au mois de septembre prochain. Donc c'est un premier moment difficile à passer et on va donc pouvoir tester ses nerfs, sa résistance à la pression dès ce week-end, dès aujourd'hui au Grand Prix d'Autriche.
Eh oui, on va pouvoir tester cette résistance effectivement, et on aperçoit Mika Salo, tiens, sur la grille de départ de ce Grand Prix de Zeltweg, hein, parce que c'est toujours l'endroit, même si c'est le village de Spielberg que l'on retrouve. Adrien, cette lutte intestine, j'allais dire aussi, chez Red Bull Renault, on a l'impression que là, elle ne laisse pas de traces sur les deux hommes, en tout cas en dehors de la piste, et pourtant entre Ricciardo et Verstappen, c'est évidemment aussi à couteau tiré sur la piste.
C'est à couteau tiré, Jean-Luc, mais pour le coup entre ces deux pilotes là, ils se respectent vraiment en piste, et je pense que chez Red Bull les consignes sont très claires. Pour la petite histoire, ils étaient tous les deux en week-end ensemble à Saint-Tropez le week-end dernier, donc vous voyez, je pense qu'au niveau des coéquipiers, c'est peut-être le duo qui s'entend le mieux. Et puis même si c'est un coup à toi, un coup à moi, pour l'instant c'est plutôt sain, jusqu'au moment où ça dérapera, si ça doit déraper.
Et comme quoi c'est possible, hein, malgré tout, de partir en vacances avec son équipier dans une équipe de Formule 1, même si c'est très très rare. Je vois que tu es bien renseigné, Adrien. Bon, on va marquer une petite pause si vous le voulez bien. On est toujours dans Motors avant Grand Prix d'Autriche de Formule 1 qui va s'élancer à Spielberg dans 25 minutes maintenant. Vous êtes au bon endroit, vous êtes sur RMC, la radio de la Formule 1. Restez-y.
RMC Motors avec Motors TV. RMC Motors. Jean Lecroix.
Et oui, on revient dans Motors avec Motorsport TV avant le départ de ce Grand Prix d'Autriche de Formule 1, le 9e de la saison. La grille sera emmenée par Valtteri Bottas, le pilote Mercedes, deuxième pôle de sa carrière, avec à ses côtés Sébastien Vettel. On est un tout petit peu plus loin sur la grille, mais pas beaucoup plus loin, parce qu'on a le plaisir d'y retrouver un pilote français, Romain Grosjean. Et pourtant, Romain, il a terminé arrêté sur le bord de la piste en Q3, Adrien. On était même un peu inquiet pour lui.
Oui, on était inquiet parce que la boîte de vitesse du français était bloquée. On a craint jusqu'à ce matin qu'il y ait un remplacement de boîte et donc une pénalité à effectuer sur la grille pour Romain. Et au final, non, c'était un problème apparemment de capteur ou de connexion électronique. Et il va pouvoir s'élancer de cette sixième place. Il a fait septième en qualif et il va gagner une place grâce à la pénalité de Lewis Hamilton. Une très belle qualification pour Romain qui semble avoir beaucoup moins de problèmes de frein ce week-end, et puis une Haas qui semble mieux se comporter dès qu'on lui remet de l'appui aérodynamique, chose qu'il faut faire au Red Bull Ring pour pouvoir être rapide. Donc voilà, une bonne qualif. Et maintenant ça, pour Kevin Magnussen, son coéquipier, ça a été plus compliqué. Il a cassé une suspension arrière gauche en qualif, donc il peut prendre le dessus aujourd'hui et se refaire la cerise, entre guillemets.
Oui, se refaire la cerise, effectivement, comme va essayer de le faire Lewis Hamilton. On écoute tout de suite Romain Grosjean au micro de Louis Amar parler justement de cette panne qui l'a affecté tout à la fin des qualifications. Heureusement, il avait pu signer un très joli temps précédemment.
Oui, effectivement, on tombe en panne sur la fin. Je crois qu'on a perdu le connecteur électrique dans la voiture. Du coup, la boîte de vitesse s'est mise à faire n'importe quoi et on a arrêté la voiture. J'espère qu'il n'y aura pas de dégâts. C'était un bon week-end pour l'équipe, on a bien progressé, on a bien élevé notre niveau de jeu et je pense que c'était sympa de pouvoir retrouver des sensations correctes dans la voiture avec, voilà, avec des choses qui marchent comme elles, à peu près comme elles doivent.
C'est vraiment le jeu des montagnes de Styrie, j'allais dire, Louis, pour Romain Grosjean, parce que le meilleur, son temps de qualif, qui est tout à fait estimable, hein, 1.05.480, il est seulement à un peu plus d'une seconde 2 de la Mercedes de Valtteri Bottas, qui, pour sa Haas, sa moteur Ferrari, est une très belle performance. Et puis, le pire, puisqu'on a craint qu'il ne souffre d'une pénalité, mais comme Adrien l'a dit, et comme on en a la confirmation, ce ne sera pas le cas, et pas de problème de frein non plus, heureusement, Louis.
Vous l'avez entendu, tout est dans le à peu près de Romain Grosjean. Tout fonctionne à peu près comme ça devrait. Il ne s'avance plus trop, Romain Grosjean, parce qu'il connaît justement trop bien l'inconstance de sa Haas Ferrari. Souvenez-vous qu'il y a 15 jours en Azerbaïdjan, il s'était plaint dans sa radio durant le Grand Prix de la dangerosité de ses freins. Il avait presque peur pour lui-même tellement ses freins ne fonctionnaient plus. Il est arrivé dans le noir ici en Autriche, mais dès les premières séances d'essai, plus particulièrement dès la deuxième, ça a commencé à bien fonctionner. Top 10 vendredi après-midi, top 10 hier matin lors de la troisième séance d'essai libre, top 10 en qualif. Alors pourquoi pas des points qui viendraient au meilleur des moments possibles pour le Français, parce qu'il a été devancé au classement général du championnat du monde par son équipier après le Grand Prix d'Azerbaïdjan à la faveur de la 7e place de Kevin Magnussen.
Et oui, effectivement, Romain Grosjean qui ressort un petit peu du trou noir là dans lequel il était avec ses problèmes de freins récurrents. Pourtant, je crois que le fournisseur de freins, si mes informations sont bonnes, on va en changer, mais lors du prochain Grand Prix seulement. Ça devrait être en Grande-Bretagne.
Absolument, bon, à Silverstone.
Hein,
ouais.
C'est bien ça. Hein. Mais apparemment, on a trouvé quand même la solution. Alors, vous le savez, il y a deux pilotes français sur la grille et c'est un vrai régal. Romain Grosjean qui partira donc sixième. Et ensuite, derrière, il y aura un certain Mexicain, un certain Sergio Pérez, dont va nous parler maintenant Esteban Ocon à ton micro, Louis, parce que Pérez s'est risqué à dire qu'Esteban Ocon manquait un petit peu de métier, qu'il était encore un petit peu jeune et que c'est pour ça qu'il y avait eu cette friction et cet accrochage lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. On écoute la réponse d'Esteban Ocon au micro de Louis Amar.
Je répondrai pas vraiment à ça parce que c'est petit, mais voilà, ça fait plus de 40 courses en monoplace de suite que je finis. Je suis champion d'Europe de Formule 3, champion du monde de GP3. C'est plus de titres que lui il a jamais gagné. C'est sûr, j'ai moins d'expérience que lui en Formule 1, mais voilà, c'est pas le problème. Et puis l'équipe est d'accord pour dire que à la fin c'est 50-50 sur l'incident.
Rassure-moi Adrien, ou plutôt inquiète-moi, tu ne les as pas vus en vacances tous les deux, hein, Pérez et Ocon.
En tout cas, ça risque pas d'arriver. On se lance des pics à travers les médias interposés. Ça m'étonne un peu de la part de Sergio Pérez. Alors je pense qu'il ressent vraiment la pression du français là depuis quelques courses, mais on connaissait hein, les limites un peu du mexicain par moment, mais en dehors de la voiture pas à ce point-là. Et puis par contre Esteban, il faudrait pas qu'il se justifie, il faudrait pas qu'il ait à dire qu'il a gagné en GP3 en F3 avant.
Bien sûr, F3,
il a pas besoin de se justifier, il a pas besoin de dire qu'il a gagné plus de titres que Sergio Pérez, mais c'est difficile, il est jeune aussi, et j'espère que Sergio Pérez ne fait pas exprès d'essayer de l'emmener dans ce jeu-là, et il faut pas qu'il rentre dedans en tout cas.
Bien sûr, en tout cas, je vais vous donner les positions respectives des deux protagonistes de Force India et elles sont plutôt flatteuses puisque Pérez est 7e au championnat avec 44 points, soit, tenez-vous bien, un seul petit point de moins que Verstappen. Et oui, on l'a dit, Verstappen accablé par les problèmes techniques. Et Esteban Ocon, il est 8e. Il est juste une position derrière. Il totalise 35 points, soit, tenez-vous bien, 6 points de plus que Carlos Sainz Jr. Louis, tout ça, c'est plutôt flatteur. Évidemment, ça profite à l'équipe. Hein. L'équipe Force India qui, au championnat, elle, occupe pour le moment la 4e place avec 79 points.
9 points de retard au classement général pour Esteban Ocon sur Sergio Pérez, mais si on fait le compte depuis le Grand Prix de Russie, il est devant Esteban Ocon sur les 5 dernières courses disputées. Il a inscrit 32 points contre 30 pour son équipier. Ça veut vraiment dire qu'ils sont dans un mouchoir et que finalement le déficit d'expérience dont parlait Esteban Ocon, qui le reconnaît lui-même, il a effectivement moins de courses que Sergio Pérez à son actif, et bien il est en train de le combler en piste. Un chiffre illustre peut-être mieux que tout autre cette progression d'Esteban Ocon. Il y a 3 pilotes à avoir terminé toutes les courses depuis le début de saison: Lewis Hamilton, Sébastien Vettel et Esteban Ocon.
Eh oui, c'est une statistique qui parle d'elle-même, effectivement, Louis. Allez, on écoute pour la dernière fois, après on va passer au sportif, Esteban Ocon, sur sa rivalité avec Sergio Pérez. Vous allez le voir, il est très lucide, le pilote français, malgré ses 20 ans. Et là aussi, il a une très bonne analyse. C'est au micro de Louis Amar.
C'est normal, on est deux pilotes qui poussent vraiment pour avoir un résultat, qui poussent pour être là. Lui, il est dans aussi une période critique de sa carrière, quoi. C'est maintenant ou jamais. Donc voilà, tout ça, ça fait que ça met un petit peu de pression et de rivalité. Moi, je n'ai pas la pression, moi, je vais être très bien. Mais forcément, en plus, je vais prendre de plus en plus d'expérience et je vais me sentir de mieux en mieux et je vais être de plus en plus présent. Donc oui, c'est pas fini, c'est clair. Mais bon, il ne faut pas que ça se reproduise comme ça.
Faut pas que ça se reproduise comme ça, Louis. C'est d'ailleurs ce qu'il nous avait dit hein, quand on l'a rencontré à Paris la semaine dernière pour parler du Grand Prix de France. Allez, on va en dire un mot, c'est l'occasion. Ce Grand Prix de France qui se profile à l'horizon de 2018, 24 juin, hein, c'est de mémoire. Ce sera une belle date pour le retour de la Formule 1 sur le territoire français.
Un mot à ce sujet justement, Jean-Luc, parce que les représentants du Grand Prix de France sont en délégation ici en Autriche et ils sont venus parler du tracé avec les pilotes. On a rencontré hier notamment Stéphane Clerc, le patron du circuit du Castellet, et vous savez qu'il y avait une interrogation sur la chicane de la fameuse ligne droite du Mistral. Est-ce qu'elle devait rester, est-ce qu'elle devait sauter? Et bien finalement elle restera parce que plusieurs pilotes ont été consultés et ont été dans ce sens-là, notamment Fernando Alonso qui a expliqué que c'est à cet endroit que la plupart des dépassements pourraient se produire et que plutôt que de limiter la vitesse, cette chicane pourrait en fait occasionner de belles actions et pas mal de spectacles. Donc il y aura bien une chicane. Et puis dernière petite information au sujet du Grand Prix de France, sachez que Stéphane Clerc essaye de faire en sorte auprès de la FOM et auprès des décideurs de la Formule 1 qu'une des deux séances d'essai hivernaux se dispute sur le circuit du Castellet et qu'il n'y en ait pas donc deux à Barcelone. Enfin, juste parce que l'information vient juste de nous parvenir, 60% de risque ou de chance, c'est selon, de pluie durant ce Grand Prix.
Oula, effectivement, ça c'est un élément très important à prendre en considération. Allez, on a un dernier son à vous faire écouter. Je vous avais dit que Louis, le Zébulon du paddock de la Formule 1, avait rencontré tout le monde. Eh bien, celui-là, il est sympa, il est sportif et ça nous fait plaisir de voir Esteban Ocon déçu. Écoutez bien pourquoi je dis ça. Déçu par le 9e temps qu'il avait réalisé lors des essais de ce Grand Prix d'Autriche. Écoutez-le.
Un peu déçu quand même. Je pense qu'il y avait un petit peu plus possible. Moi, je me qualifie avec un set de pneus usés. Des choses voilà, qu'on n'a pas super bien gérées en stratégie, je pense. On n'a pas vraiment bien géré, je pense, la Q1 où on ressort. On n'avait pas trop besoin de ressortir. Et du coup, c'était pas obligatoire d'utiliser ce train de pneus-là. Et on a dû le réutiliser en Q3. Et c'est celui que je me qualifie parce qu'à la fin, il y avait le drapeau jaune. Donc, j'ai pas pu faire mon tour avec le 9. Il y a encore des bonnes opportunités pour marquer de gros points. Et puis, voilà, qui sait ce qui peut se passer en course après.
Ah, je crois qu'on entend depuis l'Autriche une musique
nationale.
Monte, oui.
Magnifique tifo qui a été organisé par les spectateurs, magnifique tifo à l'effigie du drapeau autrichien sur l'une des plus grandes tribunes de ce circuit de Spielberg. Je vous rappelle que 160 000 personnes sont présentes cet après-midi pour ce Grand Prix d'Autriche.
Ah oui, c'est un succès populaire remarquable, effectivement, ces voix célestes là qui s'élèvent effectivement dans les montagnes de Styrie qui vont positionner les pilotes. On a vu d'ailleurs également dans le paddock, j'ai remarqué ça, tous les Autrichiens avec les culottes de peau, hein, y compris Christian Horner. Louis.
Et oui, et tout à l'heure, Max Verstappen et Daniel Ricciardo ont fait un tour de parade spécial avec cet accoutrement qui ne va pas à tout le monde, pour le dire poliment.
Oui, on va pas partir en vacances ensemble. Adrien, t'as pas la tienne hein, pour le moment, la culotte de peau.
Tu rigoles, Jean-Luc, mais j'ai eu à la porter cette culotte.
Ah est-ce que tu as des docs alors là?
Ah oui, on les veut.
Il n'y a pas eu de photo, mais vous savez, en DTM, j'étais dans une équipe qui était logée à Kempten, au sud de Munich, dans l'Allgäu. Et ben voilà, ils ont cette tradition-là de Munich. Et les Bavarois, j'ai été obligé de le faire. On m'a un peu forcé, j'avoue.
Bon, et ça devait aller très bien, j'en suis sûr.
C'est magnifique.
Allez, rien l'habille.
Rien l'habille. On continue rapidement avec la grille de départ. Le départ, c'est dans 12 minutes maintenant de ce Grand Prix d'Autriche. On sera parti pour 60. 71 tours de ce tracé long de 4 km 326, soit un peu plus de 307 km à parcourir. Et Louis vous l'a dit, des chances de pluie ou des malchances, c'est selon. On verra ça. En tout cas, derrière les pilotes dont on vient de vous parler, qu'on vient d'écouter, c'est-à-dire Romain Grosjean qui sera 6e sur la grille, Sergio Pérez qui sera 7e, je rappelle qu'Hamilton sera 8e, et on aura donc juste derrière Esteban Ocon, et puis Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne, Daniil Kvyat, Kevin Magnussen qui a eu des problèmes en qualif, donc malheureusement pour lui au niveau de la Q2, et puis Palmer, Massa, Stroll, Ericsson, Wehrlein. Un dernier mot sur les Renault qui sont pas vraiment à la fête sur ce tracé pour le moment, Louis.
Non, c'est sûr, Nico Hülkenberg a terminé 11e. Il a certes limité la casse, même s'il n'a pas réussi à entrer en Q3. Et puis le chemin de croix, en revanche, se poursuit pour Julian Palmer. On veut pas l'accabler, mais chaque week-end l'enterre quasiment un petit peu plus par rapport à son équipier, Julian Palmer, qui est toujours à la recherche de son premier point cette saison, quand Nico Hülkenberg en a lui déjà inscrit 18. Il n'est vraiment pas dit qu'il termine la saison à ce poste, le Britannique.
Voilà, on a essayé de vous donner tous les éléments avant le départ de ce Grand Prix d'Autriche de Formule 1, le 9e de la saison. Un Grand Prix, comme toujours, sous haute tension, avec une pole réalisée par une Mercedes, celle de Bottas, 42 millième devant la Ferrari de Sébastien Vettel. Et attention à la remontée d'Hamilton, qui partira 8e à la suite de son changement de boîte de vitesse. Des changements de vitesse, il y en a plein dans les montées du Tour de France. C'est là qu'on va retrouver, bien sûr, Christophe Cessieux et toute la Dream Team. Salut Chris.
Salut Jean-Luc, on va avancer les infos dans quelques instants. Ne loupera rien des deux événements phares de l'après-midi, le Grand Prix d'Autriche de Formule 1 et cette étape reine du Tour de France. 9e étape entre Nantua et Chambéry avec 3 cols hors catégorie à franchir. Le peloton est pour l'instant dans la première ascension de la journée. Le col de la Biche qui fait mal aux pattes. On revient dans un instant, on vous fait le point sur cette étape et on ne loupe pas le départ du Grand Prix. A tout de suite.